Frère Olivier de Saint-Martin, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Frère prêcheur, vous êtes prieur provincial de la province dominicaine de Toulouse. Alors les cloches ont à nouveau sonné dans toutes les églises, les alléluia ont retenti, les chocolats aussi ont été engloutis, espérons pas tous quand même. Happés par l'actualité, nous craignons que cette joie de Pâques ne soit qu'une parenthèse. Frère Olivier de Saint-Martin, en quoi la joie de Pâques serait-elle plus grande que toute autre joie ?
C'est une bonne question parce que la joie de Pâques, elle est pas si facile que ça à vivre et puis à garder. Alors je crois qu'il faut revenir évidemment à la vie du Christ. La Semaine Sainte, c'est un peu un condensé de toute la vie de Jésus. Et on le voit du Jeudi Saint au vendredi à la croix, Jésus concentre tout ce qu'il a prêché. Saint Paul dit que dans sa personne, Jésus a vaincu la haine. Et on le voit en particulier le Jeudi Saint. Enfin, c'est la crise absolue. Hein. Jésus sait qu'il va être trahi, qu'il va être mis à mort, et puis il le fuit pas. Il n'appelle pas sur les personnes la colère de Dieu. Au contraire, il rend grâce. C'est incroyable. Enfin, personne de nous ne ferait ça. Il rend grâce en pleine trahison. C'est comme s'il disait, c'est le sens d'Eucharistie, hein. C'est comme s'il disait, je te remercie Père de m'avoir donné un corps pour que je puisse en faire un instrument d'amour. Je te remercie de m'avoir donné ma vie pour que je puisse l'offrir. Et il renverse complètement le sens de ce qui est en train de se passer. Et puis il va laver les pieds de ses disciples, il va instituer l'Eucharistie. Et après, on voit, il se laisse faire.
Il se laisse conduire.
Il se laisse conduire. Il demande à Pierre de ranger son épée. À la croix, tout le monde est... La communauté qu'il avait essayé de bâtir pendant toute sa vie apostolique, cette communauté de disciples, de saintes femmes qui le suivaient, bah, cette communauté, elle est complètement éclatée. Il n'y a plus que Saint Jean, quelques femmes. Et Jésus renoue une communauté, femmes, voici ton fils, fils, voici ta mère.
Donc avec Saint Jean et la Vierge Marie et la Vierge de la croix.
Exactement. Et donc à chaque fois, il renverse le cours des choses par un acte d'amour incroyable. Mais il meurt.
Eh oui.
Et là, tout le monde est complètement désemparé. Tout le monde perd la foi, sauf Marie, qui concentre en elle toute la foi de l'Église pendant tout ce temps au tombeau. Et pour tous les autres, bah, c'est fini. On est déçu, on est triste. On le voit avec l'épisode des disciples d'Emmaüs. Eh bien, ils s'en vont, tristes et déçus, finalement, tout ça pour ça.
Il n'y a pas de victoire de l'amour.
Il y a une victoire de l'amour.
Il y a
une victoire de l'amour parce que Jésus ne se l'est pas laissé. Il n'y a pas eu de réponse de haine, de violence, ni quoi que ce soit. Donc, il y a une victoire de l'amour.
Et qu'il a donné sa vie.
Voilà. Mais tout semble s'arrêter, tout semble fini. Alors, clairement... Quand les saintes femmes vont au tombeau et que le tombeau est vide, là, il y a un bouleversement majeur. Mais qu'est-ce que c'est difficile à croire ?
Ben oui, parce que pour tout un chacun, se mettre devant cette image du tombeau ouvert...
Le tombeau est vide et on ne voit personne. parce que, alors du coup, elles redescendent. Jean et Pierre courent au tombeau. C'est très beau cette course parce qu'il y a Jean qui est plus jeune, mais Jean qui représente un peu l'amour. L'amour va beaucoup plus vite et puis il s'arrête. Il attend Pierre. Pierre, c'est à lui qui a été confié par Jésus le fait de confirmer dans la foi. Pierre arrive, Jean attend Pierre, Pierre gouverne et puis Jean voit et croit. Il voit le suaire, les vêtements, il voit et il croit. Mais Jésus ne l'ont toujours pas vu. Oui. C'est Marie-Madeleine la première qui va le voir, qui va annoncer avec une joie incroyable. Ben oui, il est ressuscité. C'est pas il s'est réveillé d'un coma. Non, il est mort et il est ressuscité. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de radicalement nouveau qui vient de se produire. Non seulement l'amour l'a emporté dans tout ce qu'il a vécu, mais ce qu'il avait annoncé, il ressusciterait d'entre les morts. Il l'a vécu. Et donc, ça veut dire qu'on ne va pas rafistoler la vie. Il y a une irruption de quelque chose de totalement nouveau qui vient d'arriver. Et ça, c'est la joie de Pâques.
Oui, mais on n'est pas sur cette résurrection de Lazare où il y a Lazare qui recouvre la vie. Vous dites qu'il y a quelque chose de complètement nouveau. Et comment ça peut être nouveau aussi pour nous, cette fameuse joie de Pâques dont vous parlez ?
Eh bien, parce que Lazare était mort, c'est Jésus qui le ressuscite, qui le fait revenir à la vie, mais Lazare ne va pas, va mourir à nouveau. Jésus, et c'est très impressionnant dans toutes les apparitions qu'il a, c'est qu'en fait, on ne le reconnaît pas au départ. Donc, on pressent bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Marie-Madeleine le prend pour le jardinier. Les disciples d'Emmaüs racontent à Jésus sa propre vie. Quand les disciples voient au bord du lac de Tibériade, c'est à la pêche miraculeuse qu'ils reconnaissent que c'est Jésus. Donc, le fait de ne pas le reconnaître montre qu'il y a quelque chose qui est nouveau. Alors, ce que les disciples vont découvrir, et ça je crois que c'est toute la pédagogie du temps pascal, c'est que c'est pour eux, c'est pour nous. C'est pas juste Jésus qui ressuscite parce qu'il est le Fils de Dieu, mais cette victoire de l'amour, la résurrection, c'est pour nous. Nous sommes appelés dans le Christ qui nous a remis l'Esprit Saint à la croix, Jésus remit l'Esprit, il donne l'Esprit Saint dès maintenant, pour que nous puissions avoir en nous, comme dit saint Paul, les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. Ou ce que dit Jésus à la fin de sa vie, « Vous ferez des choses plus grandes que moi. Vous allez recevoir l'Esprit Saint. En vous aussi, l'amour peut vaincre la haine. Tout ce que j'ai vécu, vous pouvez le vivre. Et puis, vous aussi, vous ressusciterez avec moi au dernier jour. »
Et est-ce que cette promesse cette réception de l'Esprit Saint, c'est justement ce qui peut aider à se réjouir devant un événement si discret? Vous disiez, les apôtres ne l'ont pas reconnu, et puis nous n'avons pas effectivement ce signe du tombeau vide devant nos yeux. Comment justement se réjouir devant un signe qui est quand même si discret?
Ce signe, il est discret, il est en même temps assez extraordinaire. C'est sous l'action de l'Esprit Saint, évidemment, que nous tressaillons de joie. C'est l'Esprit du Christ qui nous fait nous réjouir. Et en même temps, c'est un acte de foi, c'est un choix dans nos vies. Le lendemain du mercredi des cendres, le premier jeudi de carême, nous avions cette lecture de l'Ancien Testament qui est extraordinaire, où Dieu dit, vois, je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Choisis la vie. Choisis le bonheur. Donc, il y a un choix. Il y a un choix positif. On ne fait pas l'autruche. Non, il y a un choix positif de dire que, en chaque occasion, nous pouvons, par l'Esprit Saint qui nous est donné, nous pouvons choisir la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est de connaître Dieu. Et connaître Dieu, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est aimer. C'est ce que dit saint Jean dans sa première épître. Celui qui aime connaît Dieu. Et pour nous, donc, ça va être cultiver cette joie, ça va être de nourrir en nous tout ce qui peut faire vaincre, mais dans les petites choses de la vie quotidienne.
Oui, concrètement, vous auriez un petit exemple?
Mais c'est de ne pas se laisser aller à un énervement, une attention dans la vie familiale, un appel, tout ce qui peut faire que nous allons poser un acte d'amour. Et porté par la joie de la résurrection, le temps ordinaire, la joie de la résurrection, elle doit durer normalement tout au long de notre vie. Mais nous avons besoin de temps liturgiques qui, comme une vague, vont nous porter, vont nous montrer que c'est possible, et ensuite, ça s'enracinera dans notre vie de tous les jours.
Et cultiver cette joie de Pâques dont vous parlez, c'est pas forcément évident aussi quand on est entouré de cette actualité qui est quand même très pesante. On a cette incertitude face à l'élection présidentielle. On a cette guerre en Ukraine qui est quand même aux portes de l'Europe. Est-ce qu'on pourrait dire que cette joie de Pâques a un effet magique?
Non, elle n'a pas d'effet magique parce que Dieu veut que nous soyons les ouvriers de notre salut. Et donc, Dieu n'a pas supprimé le mal. Il a vaincu le mal. Et parce que je suis sauvé d'une espèce de fatalité qui voudrait que le mal va l'emporter, Dieu me dit, là où tu es, là où tu es planté, là où tu vis, il faut que tu sois toi-même l'ouvrier, celui qui continue la victoire de l'amour sur la haine. C'est une confiance incroyable que Dieu nous fait. Dieu nous rend responsables de continuer cette victoire de la résurrection.
Et cette victoire de la résurrection, vous disiez qu'il fallait la cultiver par des tout petits actes. Et je fais référence à cette phrase du pape François qui reprochait aux chrétiens de reprendre aussitôt Pâques passée leur tête de piment de vinaigre. Cultiver la joie pascale par ces petits gestes, c'est aussi peut-être recevoir cette joie pascale. Et comment être vraiment des récipiendaires de cette joie?
Bien, est-ce qu'on est attentif aux victoires de l'amour autour de nous? Ou est-ce qu'on est attentif à ce qui va mal? Combien de temps on passe à écouter, réécouter ce qui ne va pas, à ressasser ce qui ne va pas? Dans l'Évangile, Jésus dit « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». Il y a deux manières de le regarder. Soit je le regarde et je suis accablé, soit je le regarde et sous le souffle de l'Esprit-Saint, j'ai une action de grâce incroyable qui naît en mon cœur en disant « Mais qu'est-ce que j'ai été aimé quand même ?» Et voyez, je crois que cultiver la joie pascale, eh bien, c'est voir l'action de Dieu, c'est chercher à voir l'action de Dieu dans le monde. Nous sommes en plein printemps, la nature est en train de reprendre sa vie. Est-ce que nous sommes capables de nous émerveiller de la reprise de la vie qui chez son enfant, qui chez son mari, qui chez son frère, qui chez... La reprise de la vie, c'est de dire non, le mal ne l'emportera pas. Et là, je crois qu'on peut le cultiver. Alors comment le cultiver aussi très concrètement? C'est dans une vie de prière, c'est dans la vie sacramentelle. Comment nourrir ça? Si je vais vivre l'Eucharistie, eh bien dans l'Eucharistie, je peux, à la suite de Jésus, au moment de la consécration, dans mon cœur, offrir à Dieu le Père ce que Jésus a fait, offrir à Dieu le Père mon corps, toute ma vie, mon sang, c'est-à-dire tout ce qui me semble m'atteindre dans l'intégrité de ma vie, des échecs, des humiliations, la maladie, l'offrir à Dieu pour la vie du monde. Et si j'offre mon corps, si j'offre mon sang au moment de l'Eucharistie et que je reçois au moment de la communion le corps mort et ressuscité de Jésus, quand je vais sortir, il faudra que j'accepte d'être un peu mangé par les autres. Si j'ai dit ce Seigneur, vous voyez? Et je crois que ça, une vie eucharistique, une vie d'action de grâce. Est-ce que en famille, on pourrait au moins une fois par semaine, mais célébrer toutes les victoires de l'amour? Est-ce que dans ma prière le soir, après mon examen de conscience, je peux dire pardon? Mais combien de fois je dis merci? Toutes ces petites choses sont des grandes choses parce que, en fait, elles nourrissent. Elles font grandir en moi la joie de la résurrection, la joie de l'espérance.
La fête de Pâques ouvre le temps pascal qui dure jusqu'au dimanche de la Pentecôte. Vous avez évoqué l'Esprit Saint. Cette joie de Pâques pendant 50 jours, elle vient quand même préparer cette fête de la Pentecôte.
Oui, alors à la croix, Jésus remet l'Esprit. De son côté ouvert, jaillissent le sang et l'eau. Dans l'Église, on l'a interprété comme le don des sacrements, du baptême et de l'Eucharistie. La Pentecôte va plus nous introduire dans la confirmation, c'est-à-dire dans la constitution de la participation des chrétiens à toute la vie de l'Église. Donc oui, ce temps pascal va nous préparer à recevoir l'Esprit Saint qui lui-même, à la Pentecôte, nous confirme dans cette joie pascale et nous envoie l'annoncer tout autour de nous. En fait, le soir de Pâques, Jésus rejoint les pèlerins d'Emmaüs. Et c'est intéressant parce que Emmaüs est un lieu dont on n'a pas entendu parler dans l'Évangile. C'est comme si Jésus, avec Emmaüs, commençait à nous introduire qu'il ne va pas falloir juste rester entre disciples, donc entre la Judée et la Galilée, où Jésus fait plein d'allers-retours dans l'Évangile. Non, il va falloir aller à Emmaüs. Emmaüs, c'est du coup tous les endroits où Jésus n'a pas été. Et donc la joie pascale, les 50 jours, nous nous préparons à vraiment comprendre, à vraiment vivre de la résurrection, pour au moment de la confirmation du don de l'Esprit-Saint, à la Pentecôte, être envoyé pour annoncer la joie du Christ à toute l'humanité.
Merci, frère Olivier de Saint-Martin.
Bonne journée.